出たの。
Monde est à nous.
Téléphone rose. Téléphone rose.
On m'a dit, je chuchote, j'ai chuchoté.
Alice Milo, Pauline Mocor.
Écoute, le monde est à nous.
Et le monde est à toi aussi.
Le monde est à nous, c'est quoi?
C'est ce que t'es en train d'écouter. Et ce sera cet été, tous les dimanches, à cette même heure sur RFI.
Le monde est à nous, c'est qui?
C'est 20 jeunes, entre 18 et 25 ans. Et ils squattent l'antenne pour raconter leurs rêves, interroger le monde, rire, s'étonner.
Salut, moi c'est Pauline.
Salut, moi c'est Alice.
Aux manettes, c'est Victor. Et tous les trois, on est là pour conseiller l'équipe dans cette aventure radiophonique.
Mais le monde est à nous, c'est aussi toi qui nous écoutes.
Et tu peux nous suivre.
Tu dois nous suivre.
Sur les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, on parle d'art.
Oui, mais pas n'importe quel art. L'art contestataire, l'art subversif, l'art qui dérange et qui questionne la société.
C'est l'histoire de Fanny. Elle a 20 ans. C'est notre envoyée spéciale belge.
Le jour où on se réunit pour préparer l'émission, Fanny arrive depuis Bruxelles. Elle a voyagé de nuit en bus Eurolines.
On commence la réunion, on décide du sujet, on se dit qu'on va parler de l'art comme engagement.
Et c'est là que Fanny nous dit
« Bougez pas, j'ai notre homme ».
Il faut dire que Fanny a grandi à deux pas de Molenbeek et à côté de Molenbeek, il y a Schaarbeek. Et c'est là que vit Ismaël Saïdi.
Ismaël Saïdi est metteur en scène.
Djihad.
C'est le nom de son dernier spectacle.
Avec 156 représentations et plus de 53 000 spectateurs, il commence à faire parler de lui.
Alors, on s'est tous dit qu'il fallait l'inviter.
Obligé.
Ismaël Saïdi, bonjour.
Bonjour.
Fanny, Oumar, Xavier, Anaïs, salut à vous.
Salut. Salut.
À vous, tu regrettes d'être venu faire djihad, à vous.
À vous.
Merde, oui, je regrette. Merde. Hein? On est venu pour quoi, nous, ici? Qu'est-ce qu'on fout, ici? Hein? C'est qui l'ennemi? Un jour, c'est le juif, un jour, c'est le chrétien, un jour, c'est le sunnite, un jour, c'est le chiite. L'ennemi, c'est tout le monde, sauf nous, ici.
On a été manipulés par le système, mais aussi par les nôtres, mon frère. Par cette société qui nous dénigre. Qui nous considère comme le problème alors que nous sommes la solution. J'ai décidé de ne pas investir dans les écoles, mon frère. Ces écoles où nous aurions appris l'histoire. L'histoire de notre civilisation, mon frère. Notre civilisation construite sur l'amour, le savoir, la connaissance et la tolérance, mon frère.
Salut, donc moi, c'est Fanny. On vient d'entendre un extrait de Djihad, ton spectacle Ismaël Saïdi. Alors Djihad, c'est quoi? Djihad, c'est l'histoire d'Ismaël, tiens donc. Reda et Ben. Ismaël, c'est le rationnel, droit dans ses bottes, dessinateur refoulé. Reda, c'est l'égaré, revenu vers Dieu, un peu gauche, un peu simple et beaucoup drôle. Oui, je sais, ça se dit pas. Et Ben, c'est le pro de l'islam, ou plutôt l'imposture pro de l'islam. Nostalgique de l'époque où il jouait au sosie d'Elvis Aaron Presley, avant d'apprendre qu'avec un nom pareil, Elvis Aaron était probablement juif. Djihad, c'est aussi plusieurs tableaux propices à différents débats. Le parc Josaphat de Schaarbeek et des gars un peu paumés, l'aéroport de Zaventem et le délit de sale gueule, la mosquée d'Istanbul et l'interprétation des interdits de l'islam, et puis c'est Alep, Damas, Bruxelles sur fond de gâchis et de désenchantement. Anaïs, je crois que tu sais exactement comment tout cela a commencé.
Oui, alors le 21 septembre 2014, sur le plateau de RTL, était invitée la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui, à la suite d'une question du journaliste sur les jeunes Français qui partaient faire le djihad en Syrie, a répondu, je cite, que ce n'était pas grave si les jeunes partaient faire le djihad, du moment qu'ils ne revenaient pas. Et donc, je voulais savoir ce que tu avais ressenti à l'entente de cette phrase, et si on peut considérer Marine Le Pen un peu comme ta muse.
Ouais. J'ai dit ça à plusieurs reprises. Je crois qu'elle, ça l'amuse pas d'ailleurs que je dise ça, mais... Ouais, non, j'avais vu cette émission. C'est bien de me rappeler que c'était sur RTL. Je savais même plus où je l'avais vu.
Voilà.
C'est plus ce qu'on a vu, mais je l'avais vu, surtout entendu dire ça, et je trouvais ça extrêmement choquant. Parce que je pense toujours d'ailleurs que, effectivement, c'est important de savoir ce qui se passe quand ils reviennent et empêcher ceux qui veulent venir tuer de tuer. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a une hémorragie pareille qu'en Belgique, on en a beaucoup qui partent, en France aussi. Et de la bouche d'un être humain, c'est déjà choquant. D'une femme politique dont c'est un peu le boulot d'essayer de trouver des solutions, c'est encore plus choquant. Et Djihad est né comme ça, ouais.
Salut Ismaël, moi c'est Xavier. Ta pièce parle du djihad, entre autres. Mmh. Et je voulais savoir si tu pensais que c'était une pièce engagée, et si oui, quel était le message de cette pièce?
Alors ça, on m'a beaucoup demandé, et la réponse, elle choque toujours, parce que c'est pas, pour moi, c'était pas une pièce engagée. En fait, moi, j'ai juste écrit un spectacle. Je pense que je suis pas capable d'écrire un truc en me disant que c'est engagé au départ. Donc j'ai écrit un spectacle, je voulais que ce soit drôle. La fin, vous avez entendu un petit extrait, alors c'est marrant, parce que c'est la première représentation de Djihad qui a été enregistrée, c'est ce que vous avez entendu, donc ça il y a un an et demi, il y a 154 dates. Quand je l'ai écrite, je voulais qu'elle fasse rire pendant une heure et que ce soit un peu dur, parce que la fin est très dure de Djihad, c'est tout. Et donc moi je m'étais dit, si j'arrive à faire rire les gens avec ça, bah, c'est déjà génial. Donc je ne pense pas, moi, avoir écrit un truc engagé. Après, c'est le public qui en fait un truc engagé ou pas, quoi.
D'accord, mais du coup, tu penses pas réellement comme un artiste contestataire ou quand même un peu?
Non, je sais pas, je pense qu'artiste, c'est déjà contestataire au départ. Tu fais déjà un truc différent.
La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux.
Moi c'est Omar et je voulais juste te dire qu'il vient de se passer quelque chose d'incroyable dans le studio. Ismaël Saïdi, vous êtes un peu un vrai représentant de la génération Goldman, non?
Ouais, il y a une génération Goldman, ils ont quel âge? Alors, c'est une question piège ça en fait,
Il y a eu des CD,
Ouais, je sais, je suis fan absolu, ça n'a pas changé, donc voilà.
Voilà, vous vous doutez bien qu'on n'a pas choisi Goldman au hasard. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment ce grand monsieur a changé votre vie?
Ouf. Bah déjà par ses chansons, par ses paroles, là on a entendu, on a écouté Envole-moi et c'est assez fascinant parce que quand on écoute les paroles c'est un peu encore très 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 d'actualité, je peux me permettre le terme. Et je suppose que tu veux parler d'un épisode assez spécial de ma vie que vous avez dû lire dans mon bouquin à mon
avis. Exactement.
Et qui en fait, quand tu regardes Djihad, qui a été transposé sur Elvis finalement, mais au départ effectivement j'allais à ce qu'on appelle l'école arabe, donc à la mosquée tous les samedis, tous les mercredis pour apprendre l'arabe et la religion islamique, parce que je suis belge musulman. Et moi j'avais un Discman à l'époque, ou un Walkman, je sais pas, vous avez peut-être pas connu ça, les cassettes, le truc en plastique.
Si, on a connu ça.
Moi j'ai pas connu personnellement.
Toi t'as un CD de Soubitri, donc
t'es déjà old school.
Et donc en fait, sur la route j'écoutais Goldman, donc c'était assez incongru comme j'ai écouté Goldman sur la route de la mosquée, et je suis arrivé à la mosquée et il y avait un plus grand que moi qui avait vu la cassette et qui m'a dit qu'on ne pouvait pas écouter parce qu'il était juif et qu'il fallait que je la jette. Et c'était un des premiers chocs de ma vie parce que je me demandais comment est-ce qu'on peut m'interdire d'écouter quelque chose qui me fait du bien, quelqu'un qui me fait du bien. Et c'était la première fois que, comme je raconte dans mon bouquin, que je posais la question à Dieu. Je lui demandais, tiens, si c'était vrai, ces conneries, ou s'il n'existait pas et qu'on racontait des conneries à sa place. Donc voilà, c'était un premier gros changement dans ma vie.
Donc c'est un peu lui qui vous a sauvé finalement, pas d'une forme de radicalisme, mais en tout cas de certains excès de la religion.
Ouais, je pense que c'est l'amour que j'avais pour sa musique, pour l'artiste que c'était, qui a été un bouclier. Je pense que l'amour qu'on peut avoir pour les gens, pour l'art, pour quelqu'un, pour une femme, pour un homme, pour un prof, c'est un bouclier, ouais, je pense. Je pense que c'est un bouclier, ouais.
D'accord, et donc il y a la voix de Jean-Jacques Goldman qui a été très importante pour vous, mais ce n'est pas la seule. Si je ne me trompe pas, il y a aussi une toute petite voix. C'est qui ?
J'ai senti de l'ironie là.
Non, du tout, jamais. Jamais.
Alors, je fais partie de ces gens qui entendent des voix. Donc maintenant tu le sais. Et il y a une petite voix qui me parle tout le temps et qui fait que je parle tout le temps tout seul dans la rue, même en arrivant ici d'ailleurs. Donc j'essaye de faire semblant devant les gens que j'écoute de la musique
c'est un peu
ou quoi. Voilà, à fond. Non, mais et c'est lui qui me ramène là-dedans. Moi, je voulais pas vous le dire. Je voulais passer pour le mec quand même.
C'est votre copyright, la petite
c'est
voix.
C'est ça. Ouais, je voulais passer pour le mec normal quand même un peu, mais effectivement, j'ai une petite voix qui me parle tout le temps et je pense que c'est un peu une forme de muse et c'est ce que je dis, ce qui fait que très jeune, quand j'étais gauche, je parlais tout seul dans les rues, ce qui énervait mes frères quand ils devaient faire des courses avec moi. Donc voilà, ouais, c'est cette petite voix qui est toujours derrière, qui m'aide à écrire, qui m'aide à faire des choses.
On a vu dans ta pièce, donc pour ceux qui l'ont vu ou on encourage à voir aussi.
Merci pour la pub, c'est top.
C'est ça. En fait, il y a beaucoup de toi quand même dedans. D'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Ismaël. Mmh. Et je voulais savoir si, bon, même si tu m'as dit que c'était pour toi pas engagé, mais que l'art était contestataire, si pour toi, en fait, contester, donc faire de l'art comme contestataire, nécessitait forcément un certain vécu.
Waouh, on est directement. C'est quoi, c'est la question du bac, philo, un truc comme ça.
Je l'ai bossé celle-là,
ouais,
je l'ai bossé.
C'est ça. Moi, ce que je pense, c'est que. Quand tu écris quelque chose que tu connais, on a le droit d'écrire des choses qu'on ne connaît pas, hein, je veux dire, tu as le droit d'écrire ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, dans ma manière d'être, quand tu écris quelque chose que tu connais, bah, tu arrives à y mettre une certaine légitimité, parce que tu dis, écoute, tu as le droit de pas aimer Djihad, tu as le droit de pas aimer le spectacle, tu peux trouver que c'est mal mis en scène, mal joué, tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de dire que c'est pas vrai.
Justement, sur cette question de légitimité, je voulais en gros du coup savoir si par exemple quelqu'un d'un autre quartier que le tien, athée, aurait pu faire cette pièce-là avec la même légitimité que toi, par exemple.
Quelqu'un de Waterloo, par exemple.
Waterloo, non, je crois pas. Non. En fait, je n'ai pas la réponse parce que je pense que tout le monde a le droit d'écrire ce qu'il a envie d'écrire. Alors, est-ce qu'un sujet aussi explosif que ce qu'on a utilisé, sans jeu de mots foireux, mais ce qu'on a utilisé dans Djihad, aurait pu passer si l'auteur, en tout cas, pas les interprètes, mais l'auteur, n'avait pas été belge musulman assumé, peut-être que la réaction aurait été différente, c'est vrai. Mais je n'en fais pas une espèce de leitmotiv pour écrire. Par contre, on parlait de vécu, et pas nécessairement de légitimité sur un sujet, mais je pense que le vécu, ça t'aide énormément. Si je veux écrire demain une pièce qui parle de la parenté, du fait d'être père, si j'ai jamais eu de gosse, tu vois, ça ne marchera pas. Quand tu vois les sketchs de Florence Foresti, tu sens qu'elle a eu un enfant. C'est clair et net, donc voilà.
Le monde est à nous.
Eh oui, le monde est à nous. Aujourd'hui, on parle de l'art contestataire.
En tout cas, depuis le mois de mars, des centaines, des milliers de gens se sont rassemblés autour du mouvement Nuit Debout à République dans le 11e arrondissement parisien.
Et l'art dans tout ça ?
Eh bien l'art, Lou, Pauline et Sacha et Philippine se sont posé la question. Mieux que ça, elles sont parties faire un petit tour du côté de République, micro à la main.
On vient de sortir du métro République et on arrive vers la place de la République. On voit une immense affiche où il y a écrit « Ils ont les milliards, nous sommes des millions » avec en bas « Ici on s'aime ». Un peu partout on trouve des micro-groupes de personnes en train d'échanger, souvent assis en rond. Il y a une sorte de consensus sur le fait qu'on doit s'asseoir en rond ici. Ça a l'air chouette.
Ok, donc on va commencer. Est-ce que ce serait possible, encore une fois, de tout le monde s'assoit si vous voulez participer? Est-ce que tout le monde peut s'asseoir, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse entendre, qu'il n'y ait pas des gens qui s'agitent debout derrière et qu'on finisse avec la moitié des gens qui n'entendent plus rien?
Alors là, nous sommes à la commission pancarte qui s'est transformée en commission anti-pub. Donc nous avons sous les yeux, par exemple, une affiche avec écrit « Attention, ne mets pas tes yeux sur les pubs, tu risques de te faire manipuler très fort » avec le petit lapin du métro. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites, en fait, ici?
Alors là, en fait, on est Place de la République et on a scotché des affiches de publicité par terre et on est en train de faire du détournement de publicité. Ça consiste à mettre de la peinture, du feutre, faire des découpages, des collages, etc. sur des grandes affiches publicitaires format abribus. Histoire de remplacer le message en fait de grandes sociétés du CAC 40 ou autres qui sont en gros les puissants de la société et de les remplacer par notre message à nous. En gros, c'est se réapproprier la parole publique et surtout l'espace public. Donc une fois qu'on a fait nos détournements et qu'on a remplacé les messages publicitaires par nos messages.
D'accord, donc vous les avez trouvés sur les abribus?
Tout à fait, on les prend dans les abribus et on remplace par nos propres pubs. C'est des messages qu'on nous impose, qui sont omniprésents, Il n'y a qu'à regarder dans le métro, on ne fait pas 3 mètres sans en voir une. Notre regard est capté par ça. Et finalement, ce message, on ne le contrôle pas. Donc l'idée, c'est de prendre ce message qu'on nous impose et d'imposer notre propre message et donc de changer le contenu.
Et vous travaillez seul ou en groupe pour trouver les slogans, pour détourner ces affiches ?
Chacun amène un peu ses idées et ses slogans. Ça peut être de l'antisexisme, ça peut être de l'antispécisme, ça peut être de l'antipub, ça peut être beaucoup de choses, de l'antisécuritaire. Je pense que chacun a sa chose à dire. Et c'est ça un peu le but de la démocratie, c'est qu'il n'y a pas de mot d'ordre. Chacun prend son affiche et me fait un peu passer son propre message. Et du coup, il n'y a pas de contrôle, voilà. Et après, on va les poser. Et comme ça, tout le monde a pu s'exprimer.
Et quelles sont vos astuces pour trouver des slogans qui marquent par-dessus ces pubs ?
Ben, l'astuce, c'est d'être nombreuses et nombreux, en fait. Parce que plus il y a de gens et plus il y a de bonnes idées. Et là, par exemple, on est à deux sur une affiche. Et on vient de trouver un truc et elle me dit une idée et ça me donne une autre idée.
C'est quoi, d'ailleurs, cette affiche ?
J'ai marqué à New York Street Food. C'est l'affiche de McDo.
Original Sweet Mustard. Et ça va devenir Original Sweet Évasion Fiscale.
Ah, parce pas mal.
On ne paye pas ses impôts.
Vous trouvez qu'il y a un aspect contestataire dans ce que vous faites ?
Ben oui, totalement.
Vous trouvez que c'est de l'art ?
C'est de l'artivisme.
La connotation de l'art aujourd'hui est tellement institutionnalisée que ça me paraît toujours un peu gênant de parler d'art pour ce type d'atelier, même si forcément il y a une forme d'expression artistique là-dedans. De là à parler d'art, je sais pas, beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés ici ne savent pas comment participer à ce genre d'atelier, donc voilà, je sais pas exactement si c'est de l'art. Mais le musée du Carnavalet nous a demandé si on pouvait leur donner quelques affiches, du coup peut-être qu'à eux il faut demander si c'est de l'art.
On peut entendre un peu de musique aussi au loin. C'est du théâtre en fait, je crois.
Citoyen, permets-moi de t'appeler citoyen, même si nous savons, toi et moi, que tu n'es qu'un sujet, un esclave, un servant. Mais je veux t'appeler citoyen pour ne pas t'humilier inutilement. Citoyen, je suis la classe patronale au gouvernement et j'ai une grave responsabilité. Je dois te dire qu'il y a une crise. Une très grosse crise, irréversible, et je ne peux pas te donner d'espoir.
Alors Ismaël, dans ce reportage, on entend parler d'artivisme. Est-ce que dans ton artivisme à toi, le théâtre s'est imposé ?
Moi, j'ai d'abord fait du cinéma. Donc le cinéma s'est imposé comme une manière de s'exprimer. Et quand tu t'exprimes, tu exprimes ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, les choses contre lesquelles tu veux te battre aussi. Donc oui, effectivement. Et puis le théâtre s'est imposé. Au départ, j'avais choisi le théâtre parce que c'était, c'est assez marrant, mais c'était moins cher que le cinéma. Parce qu'il fallait des années pour monter un budget de film. Le théâtre, c'était un peu plus rapide. Donc du coup, je suis passé au théâtre pour ça. Puis je me suis rendu compte de la force de pouvoir voir les yeux des gens. Voir les yeux des gens quand tu joues. Et du coup, si tu as des messages ou des idées dont tu parles sur scène, tu vois l'effet directement, quoi.
Chez nous, Nuit Debout a été très récupéré politiquement. Mmh. Mmh. Je sais que toi aussi, tu as eu des sortes de tentatives de récupération politique, etc. Donc, est-ce que tu penses quand même qu'on peut faire de l'art engagé sans soit avoir un message politique, soit qu'au final, on se fasse récupérer politiquement ?
Je pense que tu fais de la politique à partir du moment où tu viens au monde, tu fais de la politique d'une manière ou d'une autre. Après, c'est être récupéré par des femmes ou des hommes politiques, tu vois. À partir du moment où tu considères que tu veux lutter contre la faim dans le monde, c'est une forme de politique, qu'on le veuille ou non. Donc moi, mon problème, c'est pas d'être récupéré par la politique, parce qu'en plus, le système européen, le système français, belge, qui se ressemble d'ailleurs, fait que tu vas voter pour quelqu'un, puis il va devenir ministre. Est-ce qu'il est ministre parce qu'il est de gauche ou de droite, ou parce qu'il est tout simplement ministre? À partir du moment où il est ministre, il est ministre. Je m'en fous qu'il soit de gauche ou de droite, il est ministre de tous les citoyens. Donc je pense que tu fais de la politique. Après, faut faire attention, effectivement, et bon, ça m'est arrivé, et j'ai dû apprendre sur le tas, mais il faut faire attention à ne pas se retrouver enfermé dans une case, ce que je déteste,
oui,
tu vois.
Oui, parce que toi, je sais qu'on t'a appelé le chouchou du PS en Belgique. Donc
le chien, ils avaient dit.
Ah, le chien,
c'est
pas pour moi.
C'est moins sexy que chouchou. Non,
c'est moins ouais. C'est moins cool.
C'est moins sexy que chouchou. Après, les gens s'amusent à dire ce qu'ils veulent. Djihad est une pièce qu'on a créée avec 250 euros en poche et des jeans troués qu'on s'est prêtés. Tu vois, donc, après, si, quand une ministre te dit, j'aimerais que vous la jouiez pour les écoles, moi, c'est la ministre que je vois devant moi et les écoles. Son parti, j'en ai juste rien à cirer, quoi.
Ok, d'accord.
Le monde est à nous.
Reste avec nous, on revient dans 3 minutes.
Fanny, Anaïs, Xavier et Oumar continuent de tirer le portrait de notre invité Ismaël Saïdi. C'est juste après le flash et les nouvelles du monde.
RFI, la sélection du monde.
Le monde est à lui.
Le monde est à elle.
Le monde est à vous.
Le monde est à eux.
Le monde est à nous.
Thank you.
est à nous. Pauline Mocor, Alice Milo.
Salut à tous!
Le Monde est à nous, c'est tous les dimanches cet été sur RFI.
L'émission est fabriquée par 20 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans.
Dans le studio, Fanny, Anaïs, Xavier et Oumar sont bien calés derrière leur micro.
En mode tranquillou.
Aujourd'hui, on parle de l'art.
L'art qui dérange, qui choque, qui questionne les normes et les faits établis.
Dans le studio, Ismaël Saïdi est avec nous aussi. Il a fait le trajet depuis Bruxelles, juste pour Le Monde est à nous.
Ismaël a 39 ans, il est metteur en scène. Djihad, sa dernière pièce de théâtre, a beaucoup fait parler d'elle.
On va rejoindre Molenbeek et Scarbeek, mais juste avant, on fait un détour par le Liban.
Philippine a eu vent d'un chouette projet là-bas. Samy, 23 ans, était en cours avec elle à Sciences Po. Il y a 3 ans, il a décidé de s'installer à Beyrouth et de devenir prof d'histoire.
Philippine lui passe un petit coup de fil pour prendre de ses nouvelles.
Allô?
Ouais, Samy?
Tu m'entends mieux?
Beaucoup mieux. Bon alors, comment ça va?
Ça va très bien, très bien.
Il fait beau chez toi?
Il fait très très beau, il fait déjà très très chaud à dire vrai.
Oh bah t'en as de la chance. Bon écoute, je t'appelle parce que j'ai vu sur Facebook que t'avais gagné un concours photo pour une photo que t'avais prise. Tu peux m'expliquer un peu de quoi il s'agit?
Oui, donc c'était un concours qui était organisé par l'ICTG, qui est une organisation libanaise qui travaille sur la justice transitionnelle au Liban. Le thème était la guerre vue par les jeunes. Et je voulais m'emparer de ce sujet qui est très tabou au Liban, le sujet de la guerre civile libanaise, donc qui a eu lieu entre 1975 et 1990. Et donc j'ai réalisé un portrait qui montrait différentes phases de la guerre.
Et alors, est-ce que tu peux me la décrire, la photo?
Oui, donc c'est une photo qui représente 5 jeunes. En arrière-plan, on voit 2 jeunes. Donc les jeunes ont été maquillés, tantôt en noir, tantôt en blanc, pour montrer un peu la dichotomie, l'opposition qu'il y a eu dans cette guerre. Beyrouth a été divisé en deux, en fait, pendant cette guerre civile. Il y avait Beyrouth Est et il y avait Beyrouth Ouest, qui correspondaient plus ou moins à des fractures communautaires, tantôt les chrétiens, tantôt les musulmans. Et donc j'ai mis 3 plans. En arrière-plan, 2 jeunes hommes, qui ont les yeux fermés, qui ont les yeux recouverts par de faux yeux en papier, pour montrer un peu la première étape de cette guerre qui a consisté à un aveuglement général, à de la propagande de part et d'autre, le début des violences. Un deuxième plan qui correspond à l'après-guerre, où en fait il y a 2 jeunes demoiselles qui n'ont plus de faux yeux et qui ont les yeux bel et bien ouverts cette fois-ci. Et les 2 jeunes hommes qui étaient en arrière-plan leur ferment la bouche. J'ai voulu symboliser ce qu'on appelle l'amnistie. Donc l'amnistie, c'est la loi générale qui a été votée au Liban en 1990. Tous les criminels de guerre, tous ceux qui avaient commis des actes de violence, n'allaient pas être condamnés par la justice libanaise. Donc c'était une espèce d'oubli légalisé. Et la dernière de mes élèves, qui est au centre de la photo, c'est une jeune demoiselle qui a les yeux bel et bien ouverts, qui n'a plus aucune main devant la bouche et qui crie en se tordant le visage et en s'effaçant le maquillage qu'elle avait sur la peau. Pour moi, ça symbolise la génération à venir. Cette génération qui, justement, via l'art, par l'art, va réussir à se détacher de cet héritage douloureux.
Les élèves que tu as mis sur la photo, justement, ils sont de différentes origines?
Exactement, c'est ça. Donc j'ai pris 2 élèves du grand lycée, qui étaient dans l'ancien Beyrouth Ouest, et qui sont donc globalement les populations chrétiennes, et 2 élèves de mon lycée, et qui eux sont des élèves de familles musulmanes. Aujourd'hui encore, ils se voient, ils discutent entre eux, et ça a pu permettre une amitié.
Et pour toi, cette photo, elle porte une forme de contestation?
Je conteste le silence, je conteste la propagande qui est faite encore aujourd'hui sur ce thème des communautés, ce thème de la guerre, sur le thème de l'impossible dialogue avec l'autre. L'art, plus que jamais au Liban, a un rôle social, a un rôle de contestation, et j'ai voulu m'inscrire dans cette dynamique-ci.
Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, je suis désolée, je dois rendre le studio, mais c'était ultra intéressant et je te reparle tout de suite sur Facebook.
Ismaël, on vient d'entendre un prof de lycée au Liban et toi d'autre part, tu as fait des représentations dans des institutions pénitentiaires, dans différents collèges, même à la maison de la culture de Molenbeek, base arrière du terrorisme, mais courageux. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi avant toute chose les écoles?
J'ai pas choisi avant toute chose des écoles, elles se sont imposées à moi. Quand on a commencé Djihad, c'était des tout publics, donc c'était un spectacle le soir pour les adultes. Il y a beaucoup de profs qui sont venus avec leurs élèves, qui ont acheté des billets, qui sont venus parce qu'ils voulaient le voir. C'était juste avant les premiers attentats de Paris. Et après, il y avait tellement de demandes pour les élèves que le ministère nous a demandé si on voulait jouer pour les écoles. On a un peu réfléchi, puis on a accepté. On s'est retrouvé au final, si tu additionnes tout le monde, devant 27 000 ados. plus ou moins. Et ça change une vie. Je trouve que c'est génial de pouvoir jouer devant les ados. Donc, c'était pas un choix au départ, un choix d'artiste, parce que j'y pensais pas. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu, je peux pas dire une vocation, mais une volonté. C'est, on prend un réel plaisir à jouer devant les ados. D'abord parce que c'est l'avenir, parce que vous êtes l'avenir finalement.
C'est
vous qui avez changé. Non, non, on m'a dit que si je la plaçais, j'aurais un petit cachet après, donc je l'ai placé. Non, mais d'abord, c'est vrai, parce que c'est l'avenir. Et puis, on se rend compte que les fissures, les fractures sont les mêmes. Moi, je me retrouve devant des ados qui ont exactement les mêmes problèmes que ce que j'avais moi quand j'avais 15, 16 ans. Et c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs un bouquin après ça, parce que j'avais besoin d'en parler. Et ça, c'est vraiment mon petit coup de gueule du jour. On va quand même en faire un. Je pense que l'art, il n'y a pas encore de réel pont, un vrai pont entre l'art et les ados et les écoles, je pense. Pas dans le sens de les emmener voir des pièces. Ça, ils le font souvent, mais dans le sens de leur permettre de créer, et pas créer que dans la cour d'école ou créer que dans la petite salle de spectacle de la petite école du fin fond du quartier, mais de leur permettre de créer des ponts entre les théâtres et les écoles pour qu'ils puissent créer dans les théâtres et faire passer leur message à eux.
Ouais, on n'arrive pas à les intéresser alors.
Non, mais non, mais en même temps, tu vois, c'est souvent des cas de où t'as un prof qui aime tel genre de spectacle, qui va absolument emmener ses élèves parce que, et je peux comprendre, lui ça lui fait plaisir, mais à un moment donné, il faut quand même se poser des questions en se disant, mais qu'est-ce qu'ils ont envie de voir ? Ça veut pas dire qu'il faut les emmener voir que ce qu'ils ont envie de voir. Mais si de temps en temps, tu les emmènes quand même voir ce qu'ils ont envie de voir, en sortant, tu prends le programme, et peut-être que tu iras voir après un spectacle qui n'était pas censé être quelque chose que tu allais voir.
Je tenais quand même à souligner que malgré cet engouement, quand ton bébé Djihad est né, il a été refusé, d'ailleurs dans des écoles, à cause de son nom, probablement politiquement incorrect, je suppose. Et malgré ça, tu as tenu tête. Donc je tenais juste à souligner ça.
Donc moi, j'ai une question un peu plus sur l'après de ta pièce et notamment sur le débat. C'est quelque chose qui est, à mon sens, hyper original et j'aimerais savoir pourquoi un débat après ta pièce.
Alors, sur 150, les chiffres, je m'y perds, mais 154 représentations, il n'y en a que 10 qui ont été faites sans débat, c'est les 10 premières. Parce que tu fais pas une pièce pour faire un débat après. Et en fait, au départ, les gens sortaient en larmes en disant « Monsieur, on peut pas partir comme ça, il faut qu'on parle ». Toi, tu te dis, tu veux parler de quoi? J'ai parlé pendant 1h30, donc si tu veux, on prend un verre. Et quand on a commencé avec les scolaires, on nous a dit, vous devez absolument faire un débat. Donc, on a fait un débat, puis après, on a fait le débat et pour les tout publics et pour les scolaires. Et le débat dure 1h15, en général, 1h15 après le spectacle. Je reviens. Donc, moi, je termine la pièce dans un état assez calamiteux, mais je reviens directement. Et il y a toujours un islamologue ou un journaliste avec, souvent les deux d'ailleurs. Et on décortique tout. Du coup, je me suis rendu compte de l'importance et de la pièce et du débat. L'un ne va pas sans l'autre. J'ai interdit aux profs de préparer les questions à l'avance. Donc, dès que je flaire la question préparée du genre « Quelle est l'utilité de la déradicalisation ?» J'ai dit « Tu mets ça à la poubelle suivant, je sais que c'est pas toi. » Et du coup, les gosses posent des vraies questions. Et ce qui est bien, c'est que juste après les attentats, on avait des réflexions horribles, trash, que tu peux pas avoir à l'école. T'as des élèves qui lèvent la main pour te dire « C'est bien fait pour leur gueule, ils ont eu ce qu'ils méritaient, Charlie Hebdo. » Mais moi, c'est important qu'ils le disent. Parce qu'à ce moment-là, tu peux répondre et décortiquer le truc et déconstruire et te rendre compte que ça marche. Mais nous, juste après, on s'est rendu compte qu'on disait aux gens, par exemple, t'es Charlie, t'es pas Charlie. Ils savaient même pas ce que ça voulait dire, le gars, tu vois. En Belgique, ça se vendait même pas, Charlie Hebdo. Ils savaient même pas ce que ça voulait dire, mais il était de nouveau dans un monde manichéen. T'es Charlie, t'es pas Charlie, sans savoir. Et donc là, ça permettait de décortiquer. Donc le débat, non seulement a permis de faire ça, et ça va des questions de est-ce que je peux épouser une non-musulmane, un musulman, est-ce que je peux être gay, est-ce que je peux chanter, est-ce que je peux dessiner, est-ce que... Voilà, des trucs que tu aurais jamais cru finalement. Et en même temps, la première personne qui a été changée grâce au débat, c'est moi. Parce que rencontrer autant de monde, écouter leur désarroi, leur univers, leur bonheur, leur malheur, parfois, ça te change. Ouais.
Notre revue de presse d'aujourd'hui s'intéresse au rap.
Et c'est Kaina qui pousse son coup de gueule.
Parce que Kaina, ce qui la chiffonne, c'est la place des femmes dans le rap.
Je veux Allah, si ça pour les beurres.
Tiens, justement, hier, je me suis engueulée avec un pote à cause de ça. Et je me suis posé plein de questions, mais plein de questions sur la place de la femme dans la musique. Ouais, je sais, je vous vois déjà venir avec vous. Encore une meuf qui fait la féministe à deux balles, girl power, sissi, représente. Plus sérieusement, je me posais la question. Est-ce que, dans le rap, toutes les meufs dont les rappeurs parlent sont des sexy bitches?
Kaina était une ancienne.
Ah, c'est un vrai son
ancien. La représentante de l'ancienneté.
Non, mais après, je me demande aussi, est-ce que c'est juste une manière de dénoncer les michetos, les meufs infidèles, les beurettes? Bon, j'avoue, là, tu dis, oula, où est-ce qu'elle s'aventure, celle-là?
Ouais, tu pars en couille.
Non, mais attends, moi, je sais pas, moi, quand tu vois que Aurel San a été relaxé en février dernier après que 5 associations, je dis bien 5 associations qui luttent pour le droit des femmes ont déposé plainte pour incitation à la violence envers les femmes et que la Cour a déclaré que
Par nature, le rap est un mode d'expression brutal, provocateur, vulgaire, voire violent, puisqu'il se veut le reflet d'une génération désabusée et révoltée.
Non mais franchement, questions. On en parle de cette définition du rap ou pas?
Attends, ils ont dit désabusé? Nous on est désabusé?
C'est ça, non mais tu sais, ça fait vraiment les vieux entre eux qui donnent une définition d'un truc qu'ils connaissent pas du tout.
Non mais c'est vraiment ça.
Non mais après tu dis, bon, attends, peut-être qu'il parle pas de toutes les meufs, peut-être qu'il est juste vénère parce qu'il a pécho sa meuf en train de le tromper, ou peut-être qu'il a juste envie de salir toutes les meufs, puisque oui, je te rappelle qu'Aurel San, c'est le mec qui avait été condamné en 2013 après avoir chanté « Les féministes me persécutent, me prennent pour Belzébuth, comme si c'était de ma faute, si les meufs c'est des putes, elles ont qu'à arrêter de se faire péter le huc. » Et me dire merci parce que je les éduque, je leur apprends des vrais trucs, des fois je sais plus si je suis misogyne ou si c'est ironique.
Ah ouais, Kaina, t'as un flow de malade, hein.
Moi je te signe sur mon label direct, je me retourne, je te veux dans mon équipe.
Non mais bon, là, à ce moment-là, t'as un peu envie de te dire...
Allô. Non mais allô quoi.
Il se prend pour qui, le coco, avec sa punchline de macho? Et puis le 8 mars, journée de la femme, t'as deux féministes qui te balancent un clip en réponse à Saint-Valentin, chanson d'Aurel San bourrée de punchline. On a le droit par exemple à un...
Mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Jacqueline Sauvager.
En réponse au mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignant d'Aurel San. Mais ferme ta
gueule ou tu vas te faire Marie Trintignant.
Ah oui, Marie Trintignant, l'actrice française morte sous les coups de son compagnon, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avoue, là, on est dans des histoires archi sordides, mais archi sordides.
Et tout puis, est sombre.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est à ce moment que tu te demandes, mais attends, sérieux, c'est quoi le féminisme? Et là, je fais appel à Beyoncé, interprète de Run the World.
Travaille sur les paroles. Hein.
Ouais.
Moi, c'est ma femme Beyoncé de toute façon.
J'avoue, parole pas très engagée. Mais bon, dans une interview de nos magazines Elle américain, elle s'est chargée de nous éclairer. Puisque pour elle, si t'es un mec et que tu penses que ta fille doit avoir les mêmes droits que ton fils, alors t'es féministe. Vous me suivez?
J'aime bien cette définition. Hein. C'est bien.
J'aime
c'est bien,
bien
c'est
ouais.
Pas recherché. C'est
ouais,
bien.
C'est pas recherché. Tout ce qu'on veut.
À l'époque des Destiny's Child, Queen Bee et ses copines poussaient déjà la chansonnette avec Independent Women.
Ou pas de scène ancienne?
Ouais, Kaina, c'est la seule meuf qui s'arrête en 2005. Elle n'a pas évolué.
Elle était périmée, Kaina.
Non, mais attends. Déjà, à l'époque, elle s'adressait aux filles et elle déclarait que c'était pas facile de devenir indépendante. Donc, moi, voilà quoi. Et puis, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser au premier single du nouvel album de J-Lo From The Block, Ain't You Mama. Première chanson féministe de toute sa carrière. Vous entendez? De toute sa carrière.
Mazel Tov.
Mazel Tov. Ouais,
on va dire qu'il mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et puis, cette fois-ci, c'est au mec de prendre l'air indépendance, puisqu'elle chante. Bon, je vais vous épargner moi en train de chanter, hein, mais je vais quand même vous faire la traduction.
Twerké, hein. Je sais pas vous avez
dit. Il a twerké. Ouais.
Donc, pour la traduction, alors notre cher J-Lo déclare « Je ne vais pas cuisiner toute la journée, je suis pas ta maman. Je ne vais pas faire la lessive, je ne suis pas ta maman. Quand vas-tu te prendre en main ?» C'est vrai ça, quand vas-tu te prendre en main?
Je sais pas,
m'engueule pas. Ouais,
demain.
Et puis bon, pour en revenir au rappeur à la langue bien, bien, bien fourchue, on va pas leur trouver d'excuses, mais on se dit quand même que les meufs visées par ce rap ne représentent sûrement pas toutes les meufs et que ces mecs veulent surtout se donner une image de thug. Et puis qui comme Booba aime les jolies gueules et les jolies boules. Et puis du côté des meufs, le chemin est encore long, mais tellement long, puisque l'image de la femme dans les clips reste toujours aussi dégradante et que franchement pour moi c'est relou qu'elle reprenne les codes macho des mecs pour se faire entendre. Mais ne l'oubliez pas, comme chantait James Brown, This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Vous avez aimé la revue de presse de Kaina?
Eh bien, vous pouvez écouter aussi celle de Xavier et celle de Oumar sur les réseaux sociaux.
Facebook, Twitter, Tumblr.
Parce que le monde est à nous et on est partout.
Alors, en rapport un petit peu avec la revue de presse de Kaina, et notamment sur les femmes, j'aimerais savoir, parce que dans ta pièce, il n'y a pas de représentation de la femme, et j'aimerais savoir si c'était vraiment un choix et pourquoi ce choix-là.
Alors, dans la pièce, il y a des femmes, hein. Alors on les voit pas. Ouais, y a, en fait, il y a deux femmes super importantes sans qui la pièce n'existerait pas. Il y a la mère de Reda, qui est foncièrement raciste, et il y a Valérie, en fait, qui est l'amour de Reda. Donc, en gros, je résume, Reda est amoureux de Valérie, ils sortent ensemble depuis 10 ans, et un jour, il propose à sa mère d'épouser Valérie, parce que voilà, il veut concrétiser avec elle, et sa mère lui dit, Valérie, c'est juste pour jouer, pour la vraie vie, il faut une musulmane. C'est foncièrement raciste. Et donc, ce sont deux personnages qu'on ne voit pas, mais qui sont en fait la racine même de la radicalisation de Reda. Alors, pourquoi il n'y a pas de femme personnage? Parce que quand j'ai écrit Djihad, je voulais absolument écrire des choses dont j'étais sûr, pour que même si tu aimes ou que tu n'aimes pas la pièce, je puisse au moins répondre sur le fond. Et donc, il n'y a pas de convertis d'ailleurs dans Djihad non plus. J'ai pris des personnes qui ont des problèmes identitaires, c'est un truc que je connais, je viens de là. Et donc, j'ai pris trois morceaux de moi, j'en ai fait trois personnages, et j'avais la certitude de pouvoir au moins répondre aux questions sur le fond. Écrire une femme qui part, j'aurais pas pu, parce que j'aurais écrit plein de clichés, parce que je suis pas une femme, en tout cas pour l'instant, mais j'aurais écrit plein de choses que j'aurais cru, j'aurais pris le risque de blesser des gens. Donc j'ai pas osé le faire, c'est peut-être de la lâcheté intellectuelle ou artistique, mais je voulais être sûr de ne pas blesser, je n'ai pas écrit de convertis, je n'ai pas écrit de femme pour ces raisons-là. Mais je pense que vous devez jeter un coup d'œil sur le bouquin que j'ai écrit, vu que vous en avez parlé, et tu as vu que la place de la femme, par contre, dedans, elle est assez importante.
Ouais, vous aviez une belle phrase pour votre femme, d'ailleurs, vous disiez que c'était votre unique voix à la fin du livre, il me semble. C'était très joli, j'avais beaucoup aimé, personnellement.
C'était très beau. Vous avez caché
Tu remontes dans mon estime, du coup.
C'est le côté lover to be free, tout ça.
Parce que Mar a un CD des To Be Free avec lui. Alors, on reste dans le rap.
Xavier nous a concocté une petite playlist avec son best-of des chansons de rap les plus contestataires.
Et ça donne ça.
Écoutez bien ces jeunes chanteurs qui vous sont inconnus. Et est-ce que vous êtes prêts à parier sur leur chant?
Entrée dévastée, carcasse de tir éclaté, nuée de gosses qui viennent gratter, lumière orange qui s'allume, cheminée qui fume, partie de foot improvisée sur le bitume, golf VR6, pneus qui crissent, silence brisé par les sirènes de la police.
Tes frères disparus, que tu continues à pleurer. C'est pas des flics qui les ont butés. On est les premières victimes de notre propre violence. Le signe de notre profonde ignorance. On se bute pour du hache, de la coke ou du cash. Et bientôt, on se butera pour un clash.
La chanson de Youssoupha, il faut la citer quand même. C'est « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». C'est une menace de mort.
Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Il y a de la rage dans nos propos.
Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose?
J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition.
Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position?
Quand vous entendez fuck de police, ça pique ou pas?
je réponds pas à no comment.
Bah, en tout cas, c'est vrai que c'était pas du Jean-Jacques Goldman. Hein.
Non,
je m'excuse, et ni des To Be Free pour Omar.
Hey, mais Goldman, je tiens quand même à vous dire que c'était aussi contestataire.
Complètement.
Ouais. Ah, ça il était un peu moins thug, mais.
Ouais.
Moi, je voulais savoir, en tant que policier, enfin ancien policier, parce qu'on a bossé un peu la bio.
J'avais fini par comprendre.
Comment t'as reçu ces messages qui dénoncent les violences policières et genre les fuck de police qu'on peut entendre dans ces sons-là?
C'est une période assez space de ma vie parce que j'ai grandi à un moment et dans des endroits de Bruxelles où c'était fuck de police toutes les deux secondes, quoi, tu vois. Je pense l'avoir gueulé aussi plein de fois. Puis les flics à l'époque, c'était pas les êtres vivants les plus sympas qui existaient non plus, tu vois. Puis à un moment donné, voilà, par le hasard des choses et de la vie, je deviens flic. Et puis tu vois les choses différemment. Bon, à l'époque, on n'était pas beaucoup d'origine étrangère à être rentré à la police. C'était tout nouveau, donc on devait être 3-4 sur 2000 flics. Donc tu découvres plein de choses. Tu découvres effectivement qu'il y a beaucoup de cons chez les flics. Mais tu découvres aussi que finalement, il y a de la majorité, c'est des gens bien. et que du coup faire des amalgames sur les flics en disant bande de cons, CRSSS, ben c'est faire les mêmes amalgames quand on dit que tous les Arabes sont des terroristes ou que tous les Noirs sont des cons, voilà. Donc je pense que ça m'a aidé aussi à découvrir un autre univers, de dire ben voilà, il y a des cons partout et en général les cons c'est ceux qui gueulent le plus fort. Mais la majorité, en tout cas des collègues que j'avais à l'époque, que je revois encore aujourd'hui, même si je ne le suis plus, c'était des gens bien, des gens très bien.
Ouais. Et si on inverse les rôles et que maintenant tu deviens rappeur, qu'est-ce que tu aurais envie de contester aujourd'hui ?
Je contesterais les rappeurs contestataires à la con, qui sont des capitalistes à mort et qui sont en train de t'écrire des raps en te disant « la société nous en veut, nique la police », alors que le mec il voyage en jet. Ça quand même, je contesterais. mais moi, si je devais, le rap qui m'a toujours parlé, c'est... C'est à mon époque, à dire à mon époque, ça fait vieux.
Ça fait old school.
Du temps où j'étais jeune, jeune gamin, t'avais deux écoles du rap. T'avais IM et NTM. T'avais NTM, c'était du rap contestataire, hardcore, dur. Et t'avais du rap contestataire comme IM, qui était plus dans la poésie, dans les mots. Moi, je me retrouve plus là, quoi.
En tout cas, même si on est presque tous
moi aussi,
jeunes
moi aussi,
sur plateau.
Oui, oui, oui.
Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on dit qu'il est toujours bon de consulter nos aïeux quand on se pose les grandes questions de la vie, comme on est en train de faire aujourd'hui.
Pauline est allée boire le thé avec Esther, 79 ans, une artiste performeuse espagnole.
Et c'est la minute de mémé.
Alors, les parents ou autres, moi c'est des vieux cons la plupart du temps. Tu sais, à mon époque, oui, oui, alors. Mais c'est le présent qui compte pour les jeunes.
Alors, bonjour Esther, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous, de votre jeunesse ?
Ma jeunesse. Je suis née en pleine guerre civile espagnole en 1937 et je dois dire que ça a marqué ma vie. Ça m'a donné aussi une distance vis-à-vis de tout pouvoir. Ça veut dire que pour nous, ma génération d'artistes espagnols, qui en avait un certain positionnement politique, demander des aides, dépendre de subventions et tout ça, c'était impensable. Donc ça m'a donné la liberté dans mon travail artistique, j'ai jamais demandé des aides, et ce qui m'a permis de faire mon travail absolument en toute liberté. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à faire des performances.
Si vous deviez donner des conseils aux jeunes aujourd'hui,
travailler et faire absolument ce qu'ils ont envie de faire, sans étiquette. Je pense et je dis toujours que pour moi, l'art, c'est la liberté, lutter pour ta liberté.
C'était la minute de mémé. Fanny, je crois que tu avais une question pour Ismaël Saïdi.
En gros, imagine une Belgique où l'horrible Bart De Wever nationaliste impose toutes ses idées de facho. Tu restes ou tu pars ?
Moi, je suis un chieur, je reste. Hein.
Ouais.
Ah non, attends, ce serait trop facile. Non, non, je reste.
Et les derniers événements, là, tu les as vécus comment par rapport à l'image qu'on a donnée de notre ville adorée ?
Il a fallu un bouc émissaire, on a parlé de Molenbeek. Je pense que ce sont des communes, des endroits de Bruxelles qui sont les mêmes que ce qu'il y a ici en France, un peu partout, c'est-à-dire ces endroits populaires où tu as effectivement des gens d'origine et d'une culture pauvre au départ, je veux dire en termes d'origine sociale, où tu as des cultures, beaucoup de musulmans, on va appeler un chat, et qu'effectivement c'est devenu des endroits qui peuvent faire peur mais qui ne font pas peur. Après c'est vrai que c'est plus facile de te cacher là quand tu es un radical, et si tu vas pas te cacher, je sais pas moi, dans un château, tu te caches là, c'est un peu logique, mais c'est des communes où il fait bon vivre, c'est des communes qui valent la peine d'être vues. Moi j'ai emmené énormément de journalistes du monde entier, de France aussi d'ailleurs. Vous avez vu comme je mets la France en dehors du monde, vous avez vu ça ? Du monde entier et de France aussi, pour voir que c'est des communes en fait qui sont tout aussi belles et avec leurs défauts aussi que ce que vous trouvez ici en France. Donc je pense que cette espèce de bashing qu'il y a eu à un moment donné, oui, il y a eu plein de failles en Belgique, il faut les assumer, il y a eu plein de failles, il y a plein de trucs qui ont foiré, mais ça ne méritait pas un bashing pareil au point où j'entends des députés chez vous ici qui font des AVC si tu leur dis que leur commune ressemble à Molenbeek.
Alors moi, mais je merci, trouve que c'est un compliment, j'attends quoi. Ça depuis 3 mois.
Et voilà, c'est fait.
C'est maintenant le moment de poser la question à 20 ans.
Je suis venu rapper ma flamme, mes 20 ans. Moi, je les ai vécus dans l'ombre, avec pour seul envie l'amour et puis de dévorer le monde.
Non, je ne regrette rien.
Oumar, à toi l'honneur.
Alors, Ismaël Saïdi, je me demandais, est-ce que le mec que tu étais quand tu avais 20 ans serait fier de celui que tu es devenu aujourd'hui ?
Alors, moi, je me pose cette question, mais je me pose jamais la question du mec de 20 ans, je me pose la question du gars de 12 ans, en général. C'est à lui que j'aimerais parler, et c'est à lui que j'aimerais poser la question, est-ce que ce petit gosse perdu, 12-14 ans, paumé au fin fond de Skerbeek, qui essayait de comprendre ce qu'il allait devenir, est-ce que lui serait fier de ce que je suis devenu ? J'espère que si je le rencontre un jour, il me dira oui. Le mec de 20, du coup, si lui me dit oui, je pense que le mec de 20 ans, ouais, serait fier, à mon avis, ouais.
La petite voix a disparu, du coup.
Non, elle est encore là.
Ah, c'est un éternel combat.
Non, non, elle est chiante, celle-là. Elle est...
Ismaël Saïdi, vous avez apporté de Belgique un objet qui parle de vous. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un truc que les fétichistes détestent. Alors, c'est, je ne vais pas donner la marque. C'est une liseuse numérique. Alors, d'abord, j'adore les bouquins. Donc, j'ai passé ma vie à lire des bouquins. Je trouve que c'est la meilleure manière de s'émanciper, c'est de lire. Et quand j'étais gosse, donc j'allais dans des vieilles bibliothèques, trouver des vieux bouquins, etc. Et je rentrais chez moi avec des dizaines de bouquins, et toujours emmerdant pour voyager. Et cet objet-là, j'ai plein de livres dedans. Je peux les prendre à n'importe quelle heure, les lire à n'importe quand. C'est une véritable révolution de pouvoir avoir tous ces livres avec soi. Donc, du coup, quand je prends le train, j'ai plein de bouquins à lire.
Et le dernier livre acheté ?
Ah ouais, alors le dernier livre, j'ai acheté. Alors, c'est honte sur moi parce que je viens de le découvrir, mais je suis fan absolu. J'ai découvert Romain Gary. En fait, La vie devant soi. Et j'ai été choqué, dans le sens positif du terme, choqué de voir à quel point ce qui est écrit dans ce bouquin peut être encore transposé complètement à notre société aujourd'hui. Et ce bouquin m'a pris aux tripes et j'en reviens toujours pas, en fait.
Juste avant de se quitter, on va faire une petite séquence de dédicaces. Fanny.
Joyeux anniversaire, maman.
Oumar.
Maman, il y a ton fils à la radio.
Xavier.
Mes parents, pour pas me faire engueuler, mais bien sûr, ils se reconnaîtront.
Bah moi, mes parents, Emiliano.
Et mention spéciale pour Victor Hull, aux manettes, de l'autre côté de la vitre du studio.
Merci Victor.
Merci.
Ismaël Saïdi, merci et merci bon à retour à Bruxelles.
Beaucoup. Merci beaucoup.
Le monde est à nous, c'est fini pour aujourd'hui.
Mais on reste connecté pour toi en permanence.
Sur Twitter, Facebook et Tumblr.
On est partout.
Tu peux retrouver les coulisses de l'émission, la fabrication des rubriques en images et des petites pépites surprises.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
On parlera des jeunes migrants qui arrivent en Europe.
Kaina, Donia, Philippine, Alexandre et Fanny se sont posé la question comment accueillir, comment aider.
Salut à tous.
Ciao.
Salut.
RFI.